Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Nicolas Jeannetet, vice-président du groupe Changer Paris, vice-président de la commission Espace Public Transport Sécurité et délégué auprès du maire du 15e à la tranquillité publique, la prévention et la police municipale. Bonsoir.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Alors Nicolas Jeannetet, on a vécu un second tour des législatives totalement inédit dans l'histoire de la Ve République. Un président qui perd la majorité absolue quelques semaines seulement après sa réélection. Vous étiez vous-même candidat à Paris. Que vous inspire la situation politique actuelle?
J'ai envie de vous répondre, il a bien cherché. Quand on ne fait pas campagne, quand on ne souhaite qu'une chose, c'est d'avoir Marine Le Pen, et qu'on fait tout pour avoir Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Quand on prend une grande partie de son programme dans le programme des autres candidats, et notamment chez Valérie Pécresse, et je suis bien placé pour le savoir, puisque je me suis notamment occupé du programme économique de Valérie Pécresse, et bon nombre de ces mesures se sont retrouvées dans le programme d'Emmanuel Macron. Quand on bafoue comme ça le Parlement pendant 5 ans, eh ben, il est presque normal que les Français ont envie de se réveiller et envie de donner les contre-pouvoirs et de redonner finalement sa pleine puissance au Parlement, parce que le message qui est passé, il est clair, c'est le Parlement doit reprendre la place qui lui est due. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les Français d'ailleurs sont contents, puisqu'un récent sondage, je l'ai vu, montrait que 64% des Français étaient ravis de cette situation. Donc maintenant, il faut trouver une solution et il faut faire avec.
Alors la question maintenant, Nicolas Jeannetet, est de savoir dans quelle direction penchera le gouvernement, vers la gauche, vers la droite. Le président Macron s'est adressé aux Français cette semaine en mettant la pression sur l'opposition. Est-ce qu'on se dirige vers un blocage institutionnel?
Pas dans un premier temps. Il y a trois possibilités pour le président de la République. Le premier, c'est le gouvernement d'union nationale. Alors bien évidemment, ça a été tout de suite balayé, et c'est normal par tout le monde. Parce qu'en général, il faut être en situation de guerre ou de grave crise économique pour que l'on retrouve au sein du gouvernement des ministères à des ministres de toutes les tendances politiques. Deuxième possibilité, c'est la coalition. Aujourd'hui, et notamment la coalition à l'allemande, pour moi, elle est inenvisageable. Aujourd'hui, on donne souvent l'exemple de l'Allemagne, mais l'Allemagne, c'est différent. Les électeurs, quand ils vont se rendre aux urnes, ils savent dès le départ qu'il y aura une coalition. C'est d'ailleurs en général une élection à un tour, et ensuite, il y a 6 mois de travail entre les gagnants. D'abord, c'est le parti qui arrive en tête, qui demande et qui appelle les autres partis à faire une coalition. Et là, comme je vous le disais, c'est un travail de 6 mois, souvent un rapport de 30 pages, sur lequel on fait des avancées. Et d'ailleurs, nous, moi, centristes, libéral et faisant partie des centristes, je prône plutôt cette coalition gouvernementale à l'allemande. Mais ça se prépare et ça s'annonce dès le départ. Donc là, aujourd'hui, la deuxième solution, la coalition gouvernementale n'est pas possible. Troisième solution, et c'est celle qu'aujourd'hui est envisagée en tout cas par la droite et le centre, c'est le compromis texte par texte. Et là, ça va effectivement changer les habitudes du Parlement, changer les habitudes de l'Élysée. Il va falloir travailler texte par texte, aller chercher des majorités, des compromis. C'est un vrai travail de dentelle. Et ça, je peux le dire que Jupiter n'y était pas prêt. Il va falloir qu'il change ses habitudes. Et d'ailleurs, je me pose aussi la question, est-ce que la Première ministre est bonne à ce poste-là? Parce que c'est un vrai poste politique maintenant qu'il faut avoir à la tête de la rue de Varennes.
Le président Macron est donc contraint de changer sa méthode, moins de verticalité, plus de concertation. Est-ce qu'on risque de perdre du temps?
Ah ben on risque de perdre du temps, oui. Parce que là aujourd'hui, on ne connaît pas la méthode de travail. Est-ce que le compromis, est-ce que le travail sur les textes, il doit être fait en amont? Est-ce qu'il doit être fait pendant les commissions? Est-ce qu'il doit être pendant la discussion du texte en séance plénière? Pour l'instant, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre chez lui. Souvenez-vous, pendant le quinquennat précédent, les textes arrivaient directement d'Élysée, ils n'étaient à peine discutés en commission, les amendements étaient de toute façon refusés par centaines, aucun amendement de l'opposition n'est passé, même si nous, on votait quand même 30% des textes. Et souvent, c'est le conseiller de l'Élysée qui murmurait à l'oreille du ministre en disant « il faut aller dans telle direction ». Eh bien, tout ça, c'est fini. Jupiter, maintenant, va s'occuper sûrement plus international qu'il ne le faisait avant. Et maintenant, il faut qu'il trouve un Premier ministre. Je dis bien « il faut » parce que je pense qu'Elisabeth Borne doit démissionner. Il faut qu'il trouve un Premier ministre beaucoup plus politique. Alors, ça va être aussi le travail, bien évidemment, du ministre en charge des du Parlement, Olivier Véran. Mais on connaît aussi la droiture d'Olivier Véran, qui, on se souvient, dans les débats sur le pass vaccinal, n'a pas toujours été très correct avec l'opposition et est un peu clivant. Donc tout ça doit mettre de l'eau dans son vin, et c'est une nouvelle méthode qui va s'ouvrir.
Et ce Premier ministre qui serait plus politique, il existe dans les rangs de l'opposition, de la droite et du centre, ou bien il doit venir des rangs macronistes?
Mais pourquoi voulez-vous qu'il vienne déjà de les rangs de la droite et du centre? Nous, il n'est pas question une minute pour l'instant de faire allégeance à Emmanuel Macron. On est dans une opposition claire, sans équivoque, une opposition saine et constructive, mais en pesant sur les textes qui seront votés, en faisant avancer le pays. Nous, on a un programme. Aux législatives, nos parlementaires ont été élus sur un programme. Moi-même, qui étais candidat législatif, je présentais à mes électeurs un programme de réforme. Ce n'est pas au président d'imposer maintenant ses réformes, il faut qu'il nous écoute, et c'est en travaillant maintenant les textes par texte qu'on arrivera à trouver une solution.
Donc vous prenez plutôt un Premier ministre qui aurait le profil, par exemple, de Bruno Le Maire ou de François Bayrou?
Et par exemple, je n'ai rien contre Elisabeth Borne. C'est sûrement une femme très compétente, une femme affûtée, capable de prendre des décisions, mais c'est sûrement, probablement, une très bonne présidente de grande entreprise ou une très bonne directrice de cabinet. C'est vrai que pour être Premier ministre, il faut être technicienne, il faut convaincre, il faut être un bon négociateur politique, mais il faut diriger le gouvernement, il faut surtout convaincre l'opinion, convaincre les parlementaires. Il faut être très bon à la voix, je ne suis pas sûr. Et voilà, je n'ai rien, bien évidemment, contre Elisabeth Borne, qui est une femme remarquable, mais dès lors que Macron ne pourra plus être Jupiter, il a besoin d'une autre personnalité politique pour lui seconder, et je pense que le profil d'Elisabeth Borne n'est pas forcément le bon profil, et qu'il va devoir trouver un vrai Premier ministre politique, et ça je laisse Emmanuel Macron le choix, mais Bruno Le Maire, je sais que François Bayrou pourrait éventuellement être candidat. Après, il faut que ce Premier ministre soit aussi conciliant et soit peut-être plutôt bien vu avec la droite et le centre, qui seront en tout cas la seule opposition qui sera capable de faire avancer les textes avec la majorité aujourd'hui.
Est-il urgent, Nicolas Jeanneté, de nommer un nouveau gouvernement, notamment pour faire face à des urgences qui nous attendent cet été, la crise de l'hôpital ou le retour du Covid?
Non, mais je pense qu'il est quasi obligatoire de changer de Premier ministre. Le Premier ministre a perdu. Il a perdu les législatives. Le président a gagné son élection présidentielle. Il a nommé une Première ministre, certes, qui était peut-être très occupée à gagner elle-même dans sa propre circo, elle a gagné d'ailleurs qu'à 52%, mais elle n'a pas mené la campagne, ou en tout cas elle l'a menée de façon très superficielle, et aujourd'hui, les Français ne lui ont pas donné son accord. Alors après, il peut la reconduire. Là où je vous rejoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités. Il faut que l'ensemble des groupes politiques prennent ses responsabilités. On a une école défaillante. On a un système de santé au bord de l'explosion. Je rappelle que j'ai vu récemment que le CHU de Bordeaux va réduire sa capacité de 20% cet été par manque de soignants et parce que les soignants sont fatigués. On a une dette catastrophique. On a un déficit commercial délirant. On a une cohésion national qui est en danger, on a un défi énergétique, enfin, il y a tellement de choses à faire qu'il est urgent, et donc il serait urgent à mon avis que le Président de la République nomme un Premier ministre ou une Première ministre politique pour se mettre très vite à la tâche.
Nicolas Jeanneté, vous êtes un élu parisien spécialisé dans les questions de sécurité, est-ce que c'est un angle mort de la politique d'Emmanuel Macron et de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, les questions de sécurité?
J'aurais dit jusqu'à l'époque du Stade de France, à l'épisode du Stade de France, j'aurais dit c'est pas mal mais peut mieux faire. Là, il y a une vraie erreur du ministre de l'Intérieur. Et je fais partie de ceux qui appellent à sa démission. Il y a une faute du ministère de l'Intérieur, il y a une faute de l'État français dans la gestion du Stade de France. On est la risée du monde entier sur cette gestion, et chacun doit prendre ses responsabilités. Ensuite, la hausse de la délinquance est aujourd'hui à nouveau repart à la hausse, hein. Il faut être honnête, et notamment à Paris, il y a deux catégories de violences qui augmentent, les violences conjugales et sexuelles, les vols et les cambriolages, notamment ces jeunes venus d'Europe de l'Est, mais aussi ces bandes mafias venues du Maroc et d'Algérie, notamment via des mineurs isolés, qui cambriolent et qui font du vol à l'arrachage. Il y a aujourd'hui une hausse de la délinquance, mais qui, bien évidemment, par rapport à la période Covid, est beaucoup plus importante, mais qui, finalement, est légèrement supérieure à la période pré-Covid. Donc, effectivement, il y a une remise en cause, aujourd'hui, oui, de la gestion de l'ordre en France.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement, justement, pour rétablir un peu plus de sécurité? Est-ce que c'est un problème d'effectifs, de choix politiques aussi?
Non, oui, alors c'est un choix d'effectifs, oui, bien évidemment, mais c'est surtout une question de réponse pénale. La réponse pénale n'est aujourd'hui pas à la mesure des enjeux. Emmanuel Macron avait lancé, et ça n'a pas abouti avant l'élection présidentielle, les états généraux de la justice. Aujourd'hui, il faut tout remettre à plat dans la justice, il faut beaucoup plus de magistrats, il faut construire beaucoup plus de prisons, il faut des peines qui arrivent beaucoup plus vite, il faut une réponse pénale plus rapide et à la hauteur des méfaits qui sont commis. Et s'il n'y a pas de réponse pénale, on aura beau mettre un maximum de policiers dans les rues, ça ne changera rien. J'étais ce matin en réunion à l'hôtel de ville pour le Conseil parisien de la sécurité, avec le préfet de police, qui d'ailleurs n'était représenté que par sa directrice de cabinet, mais avec la maire et les différents maires d'arrondissement. On a évoqué, par exemple, le problème des touristes pendant cet été, et notamment le fait de mettre, vous savez, des commissariats volants dans les camionnettes près des lieux touristiques pour que les touristes puissent porter plainte rapidement. Bon, mais un élu a posé la question, oui, très bien, porter plainte, mais si les plaintes ne sont pas traité ensuite et que la justice n'est pas rendue, ça ne sert strictement rien. Sinon, les plaintes vont se remplir sur les bureaux des commissariats et de la justice, ça ne sert à rien. Donc, le cœur du problème, c'est aujourd'hui la justice qu'il faut relancer et remettre à plat.
Il y a un problème d'insécurité à Paris, notamment pour les touristes qui sont plus ciblés que les autres, Nicolas Jeanneté.
On a le sentiment, effectivement, notamment sur la grande zone Trocadéro, Champ de Mars, Tour Eiffel, moi je le vois dans la partie 15e, où il y a 50 000 personnes par jour qui transitent par les métros, il y a effectivement une délinquance qui est en hausse, qui est due notamment à des bandes organisées qui sont manipulées par des mafias. Vous savez, c'est terrible, hein. Ce sont les fameux MNA, les mineurs étrangers isolés. Des bandes repèrent des jeunes au Maroc, notamment, et en Algérie, qui sont eux-mêmes orphelins, qui sont eux-mêmes déjà tombés dans la drogue. Ils les font traverser la Méditerranée et ensuite, ils exploitent en bande organisée pour cambrioler, faire du pickpocket, arracher les colliers et cambrioler les petits commerçants. Mais même les petits commerçants ou des petits pharmaciens où il y a 100 euros dans la caisse. Le but, c'est d'amener un maximum d'argent et rapidement. Alors, la police travaille bien. Elle a d'ailleurs encore démantelé, il y a quelques jours, quelques têtes de réseau. Mais effectivement, c'est la grosse hantise et notre grosse angoisse là à l'approche de l'été, puisque les touristes reviennent aujourd'hui en masse. Alors, pas les Chinois, mais beaucoup les Américains et des gens d'Europe de l'Est. Ils reviennent. Et là, aujourd'hui, on est face à de nombreuses plaintes de vols en bande organisée, notamment par ces jeunes mineurs qui d'ailleurs couchent sur place. Hein. On les a délogés, ils couchaient dans les jardins de Cradero, dans le jardin du Champ de Mars. Et là, c'est un vrai souci qu'on essaye aujourd'hui de répondre.
Nicolas Jeanneté, il y a un sujet notamment à Paris, c'est l'augmentation du nombre de cyclistes tués sur les routes. Comment expliquez-vous la hausse de la mortalité à vélo? Que faut-il faire?
Bon, c'est très simple. Je suis moi-même cycliste, même si je suis aussi enduro motorisé. Mais je m'occupe aussi des questions de mobilité au Conseil de Paris. Cette hausse, elle est due à deux choses. Elle est très simple, hein. Il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Enfin, c'est dramatique, hein. Mais les raisons sont simples. D'abord, parce qu'il y a beaucoup plus de cyclistes qu'avant, déjà. Donc, forcément, il y a plus d'accidents. Vous savez, on a découvert assez tard le vélo à Paris. Moi qui ai vécu une dizaine d'années dans d'autres capitales européennes et notamment à Berlin, on s'est mis au vélo beaucoup plus en amont. Et le premier mandat d'Hidalgo n'avait réalisé que 50% de son plan vélo. Et donc on rattrape très vite et souvent trop vite le vélo à Paris. Et donc les pistes cyclables ont été souvent construites n'importe comment, sans aménagement sécurisé, avec, vous savez, ces fameuses Corona piste. Donc, des aménagements mal conçus, des pistes cyclables mal conçues, beaucoup plus de cyclistes et surtout un manque d'harmonisation de l'espace public entre la voiture, le cycliste, le piéton et les trottinettes fait qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup plus d'accidents de cyclistes et même, je dirais, de piétons.
Nicolas Jeanneté, il y avait deux sièges de députés parisiens de la droite et du centre lors de la précédente législature. Ces deux sièges ont été perdus.
M'en parlez pas.
Est-ce que c'est inquiétant pour vous le fait qu'il n'y ait plus d'élus de la droite et du centre à l'Assemblée nationale?
Je le regrette et j'en suis vraiment triste. Je suis triste pour Brigitte Kuster, qui était une formidable députée, qui nous a d'ailleurs permis, je vous parlais tout à l'heure du fameux Conseil parisien de la sécurité, c'est grâce à elle qu'il existe, puisqu'elle a proposé lors de la discussion de la loi sécurité globale un amendement qui a été adopté à la majorité et qui a permis la création de ce Conseil parisien de la sécurité. Je le regrette, Brigitte Kuster, puis je regrette aussi mon ami Francis Piner, parce que c'était deux voix formidables pour nous représenter à l'Assemblée nationale. Après, moi-même, j'étais candidat dans le 15e, vous le savez, j'ai fait 14%, j'ai été éliminé donc au second tour. On était dans une situation très particulière, avec le fait majoritaire qui fait que forcément le parti de la majorité, le parti du président de la République arrive toujours en tête, et c'est la tradition de la 5e République, c'est ce qu'on appelle le fait majoritaire, et puis il y a eu cet événement qui fait que, après avoir mis en scène son face-à-face avec Marine Le Pen au premier tour, eh ben au deuxième tour de l'élection présidentielle, législative, c'était face à Jean-Luc Mélenchon, que lui-même avait d'ailleurs aussi mis en scène en se désignant Premier ministre, et tout le monde s'est focalisé vers ces deux partis, NUPES et Ensemble, et donc forcément, la droite et le centre ont été un peu mis de côté. Je le regrette, mais ce n'est que partie remise.
Merci Nicolas Jeanneté. Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe Changer Paris, vice-président de la commission Espace Public Transport Sécurité et délégué auprès du maire du 15e à la tranquillité publique, la prévention et la police municipale. Bonsoir.
Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.